Voilà, nous pouvons prendre place. Alléluia. Voilà, donc nous sommes au deuxième jour de notre séminaire intitulé Victoire sur la sorcellerie et l'occultisme. Bien sûr, la victoire commence dans nos propres vies avant de rebondir sur la vie des autres. Ça commence d'abord dans nos propres vies. Et hier, nous avons expliqué ce qu'on entendait par sorcellerie et occultisme, c'est-à-dire en résumé le trafic avec le monde des esprits. Donc on a expliqué que en fonction des lieux géographiques, nous n'avons pas tous la même acception. Quand on parle en Europe de sorcellerie, ça n'a pas la même explication qu'en Afrique. Donc quand on dit en Afrique sorcellerie, on voit tout de suite le méchant homme ou femme qui tue les autres et qui fait des voyages astraux, c'est-à-dire qui arrive à se déplacer par son esprit. Et en Europe, quand on dit sorcier, on voit plus quelqu'un qui trafique avec le monde des esprits. Donc ce n'est pas exactement la même chose. Donc on a expliqué que ça commençait par des pactes involontaires, par exemple, qu'on a hérité dans nos familles, ou bien qu'on a subi quand on était enfant de la part d'un voisin ou de quelqu'un de proche, et au pacte volontaire qu'on a soi-même signé sans savoir les tenants et les aboutissants de ces contrats. Donc, par exemple, quelqu'un qui consulte les astrologues ne sait pas qu'il vend son âme. Il croit juste consulter quelqu'un et le payer. Or, c'est déjà un contrat. C'est un contrat où toi, tu penses savoir à quoi tu t'engages, mais en réalité, le diable te ment. Il te fait croire que tu t'engages pour 5 choses alors que tu t'engages pour 10 choses. Toi, tu penses recevoir quelque chose, mais le diable te prend plus que toi, tu penses donner. C'est ça, les pactes, quand on les fait avec le diable, soyons-en sûrs qu'on serait forcément dupé, qu'on serait forcément trompé, parce que son nom, le diable veut dire le menteur, diabolos. Donc il va toujours mentir dans tous les contrats. Et donc on a expliqué comment cette sorcellerie ou ce contrat avec le monde occulte, on a expliqué que ça aboutissait à des voyages astraux, c'est-à-dire que l'homme a été créé homme, âme, plutôt âme, corps et esprit. Le corps, c'est ce qu'on voit avec les yeux. Et l'âme et l'esprit, on ne voit pas. L'âme, c'est ce qui fait notre personnalité propre, notre volonté, nos sentiments. Et l'esprit, c'est ce qui fait la partie du contact avec le monde spirituel. Et Dieu a bien fait les choses. Il a fait que notre esprit, de lui-même, ne puisse pas contacter le monde spirituel. Plutôt ne puisse aller dans le monde spirituel. Mais le diable a réanimé cela pour ceux qui font des contrats avec lui. Ce qui fait que dans ces pratiques de trafic avec le monde spirituel, on en arrive à faire ces voyages astraux où ton esprit sort de ton corps pour aller dans divers endroits, faire des missions de tuer, faire des missions d'envoûter, faire des missions diverses. Voilà, c'est ce qu'on appelle sorcellerie dans certains endroits. Et on a expliqué que dans tous les cas, Dieu est libéré de la sorcellerie. Donc il peut délivrer quelqu'un qui est dans le trafic avec le monde des esprits, donc quelqu'un qui est dans l'occultisme, le Seigneur libéré, et que l'occultisme, la sorcellerie avait des conséquences qu'on a décrites. On a décrites hier des conséquences ignorées de ceux qui font ces contrats-là, et on a décrit ces conséquences qui sont en réalité les objectifs du diable pour quelqu'un qui vient dans l'occultisme. Et un des objectifs principaux, c'est que quand tu entres dans l'occultisme, tu deviens une antenne directe du diable. On a expliqué que tous les humains, même ceux qui ne croient pas en Dieu, le diable n'a pas une emprise directe sur eux. Même s'ils ne croient pas en Dieu, il a une certaine emprise liée au péché que commettent ces gens-là. Mais il n'a pas comme un droit direct sur eux, tout simplement. Il lui faut manipuler ces gens-là. Il les amène dans les péchés, il les amène dans des mauvaises choses pour pouvoir après avoir une influence sur eux. Alors que quand on entre dans le monde occulte, on est comme relié maintenant par un fil au monde du diable. Donc ce n'est pas, il n'a plus besoin de te manipuler pour t'avoir ou bien pour te faire du mal. Juste le fait que tu es dans l'occulte, ça veut dire que tu fais partie de ses soldats. Tu deviens une antenne directe. Donc il y a comme un fil qui te relie à son monde. C'est ça la grande différence entre quelqu'un qui pêche normalement, c'est-à-dire par les choses visibles, le vol, la colère. C'est des choses qui donnent accès au diable. C'est vrai, mais d'une manière limitée. Alors que l'occultisme rend presque l'accès au diable direct. Il y a comme des chaînes qui te relient maintenant au monde spirituel, diabolique. C'est quand même une différence de taille. Donc on a donné quelques exemples. Quand quelqu'un est dans la cocaïne, au début c'est lui qui décide quand est-ce qu'il veut prendre la cocaïne. Donc il y a déjà une faiblesse, il y a déjà une mauvaise chose. Mais quand il devient dépendant, ce n'est plus lui qui décide. C'est la cocaïne qui décide quand la personne doit la prendre. Donc c'est ça la grande différence. Donc quand tu es dans le monde occulte, tu as comme cédé ton autorité directement au diable. Et donc c'est lui qui commencera à décider qu'est-ce que tu dois faire à quel moment. Et alors que pour les autres humains, il a besoin de les manipuler. Et donc on a cité les exemples des décisions que prennent les politiciens. Il y a des moments ça passe, il y a des moments ça ne passe pas. C'est la preuve que comme la plupart des politiciens sont dirigés par les forces des ténèbres, c'est la preuve que les forces des ténèbres ne réussissent pas toujours leur coup, même s'ils ont affaire à des incroyants. Donc ça, ils ne réussissent pas toujours parce qu'ils n'ont pas un contrôle direct, un contrôle total. Là, le contrôle est limité. Il leur faut beaucoup de manipulations pour arriver à certains objectifs, à certaines fins. Donc ce qui fait que tout ne marche toujours pas. Mais alors que pour ceux qui ont signé des pactes avec eux, pour ceux qui sont dans ce monde occulte, quand ils ont un coup, ils réussissent toujours. Sauf quand Dieu décide de sauver ces gens-là, là, les choses changent. Voilà, en résumé, ce dont on a parlé hier. Et aujourd'hui, nous voulons parler des pièges et des portes qui peuvent arriver dans la vie d'un chrétien pour l'amener aussi dans l'occulte et dans la sorcellerie. C'est possible qu'un chrétien en arrive là. Donc on va parler de ces portes et de ces pièges. Mais je veux faire un éclaircissement. C'est que quand je dis que Adam, Dieu lui avait donné l'autorité sur le monde visible et il lui avait interdit de vouloir accéder au monde invisible à travers le commandement de ne pas manger le fruit d'un certain arbre, ça ne veut pas dire que quand Adam a mangé ça, il est devenu sorcier. Non, ça veut dire tout simplement qu'il a franchi une limite que Dieu n'a pas voulu qu'il franchisse. Donc, il a touché au spirituel lié au bien et au mal. Mais, après la chute de l'homme, Dieu quand même fait la différence entre le péché du genre, voler, escroquer, être en retard ou bien être fainéant, paresseux dans les choses bonnes. Il fait la différence entre ça et le péché de contact direct avec le monde spirituel. Il y a quand même une différence très 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 importante. D'ailleurs, c'est ce qui explique que Dieu ait choisi un peuple, parce que ce peuple-là devait ne pas toucher au monde invisible, spirituel, démoniaque, alors que les autres peuples faisaient cela couramment à travers les faux dieux. Donc, cette différence n'est que terrestre, mais au niveau du jugement, il n'y a pas de différence. Tous les péchés amènent à la même sanction, à la même punition, c'est le feu éternel, c'est la mort, la seconde mort. Mais cependant, au niveau terrestre, il y a une différence entre celui qui vole juste ou qui est dans la débauche et celui qui touche au domaine spirituel démoniaque, parce que la deuxième personne, eh bien, elle est comme reliée automatiquement. Quand elle fait un pacte direct avec Satan, ou indirect, elle est comme liée au monde du diable. Il y a comme un fil par lequel le diable peut faire passer plus facilement des choses que pour un homme qui pêche juste par manipulation du diable, par tentation. Et Un exemple, c'est que quand on va à l'hôpital, il y a une différence entre le fait qu'on te donne, on te pique avec une seringue et le fait qu'on fasse passer par perfusion des choses. Quand ça passe par perfusion, ça arrive beaucoup plus facilement, ça a beaucoup plus d'efficacité que quand c'est juste la piqûre ou bien des comprimés que tu prends. Et donc quand quelqu'un dans le monde occulte, c'est comme s'il était en perfusion, il est relié à des fils au monde du diable. Alors que quand quelqu'un pêche tout simplement, eh bien, c'est comme si on lui piquait des choses. Tous les deux cas sont mauvais, mais les conséquences sur terre ne sont pas pareilles. Donc les conséquences pour le deuxième cas sont beaucoup plus graves sur terre, je veux dire, que pour les autres péchés différents qui ne touchent pas au monde spirituel. Et pour les questions, donc après cet enseignement, on a droit à poser des questions. Nous lisons Deutéronome 18 pour commencer. Deutéronome 18. Deutéronome 18, à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Le Seigneur nous montre que la grande différence entre son peuple et les autres, c'est le monde spirituel. C'est la grande différence. Il dit que mon peuple n'apprend pas à faire de l'astrologie, à consulter les devins, les enchanteurs, n'apprend pas à entrer dans le monde spirituel. Je te l'interdis comme j'avais interdit Adam. N'apprends pas parce que ce n'est pas de ton niveau. Il y a des puissances qui sont là, qui peuvent te troubler. Reste dans le monde visible. Et le Seigneur nous donne un détail très important. Au verset 12, il dit « Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Donc le Seigneur dit que c'est à cause du trafic avec le monde des esprits qu'il chasse les nations devant Israël. C'est à cause de ça. Donc je voulais souligner la différence quand même qu'il y a entre le péché de vol, de mensonge, les péchés que nous connaissons visiblement et les péchés liés au trafic avec le monde des esprits. Donc Dieu dit clairement que ces péchés-là ont des conséquences beaucoup plus graves, non pas par rapport au jugement dernier, mais par rapport au travail, à la communion terrestre avec Dieu, par rapport à des conséquences terrestres. Dieu dit, je ne veux surtout pas que vous touchiez à cela. Il y a quand même une différence, nous devons comprendre ces choses. C'est pourquoi, comme nous l'avions dit, dès le départ, il avait dit à Adam, reste dans le visible, ne touche pas à l'invisible. L'invisible, c'est à moi. Souvenons-nous du verset de Deutéronome 29:29. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est à vous et à vos enfants, afin que vous appreniez à marcher selon ces révélations. Ce qui est caché, c'est à Dieu. Donc Dieu dit, occulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire caché, mystérieux. Donc ce qui est caché, il ne faut pas surtout que l'homme touche, c'est à Dieu. Ce qui est visible, ce qui est révélé, c'est pour vous et vos enfants, afin que vous en profitiez selon la volonté de Dieu. C'est ça que le Seigneur dit. Et la sorcellerie, l'occultisme, vise à nous faire entrer dans le domaine interdit par Dieu, dans le domaine caché, dans le domaine mystérieux, pour qu'on fasse des manipulations avec les esprits, avec le monde invisible. Et ça, Dieu ne veut pas de cela. Et on l'avait dit hier, le moyen le plus simple d'entrer dans l'occultisme, dans le monde de la sorcellerie, c'est les héritages. Le pacte involontaire. Tu es dans une famille qui est dedans, tu hérites. Tu as été impacté quand tu étais petit déjà par certaines personnes, tu hérites. C'est le moyen le plus simple. On ne va pas insister là-dessus. On ne va pas non plus insister sur le pacte volontaire parce qu'on en a parlé hier. Aujourd'hui, on parle des chrétiens. Donc, on va expliquer que on veut qu'on ferme les portes. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est fermer toutes les portes d'accès que l'ennemi peut utiliser pour progressivement nous amener dans l'occulte, dans la sorcellerie. Donc, fermer toutes ces portes-là. Et nous connaissons quelqu'un qui est entré dans ce monde occulte, qui était dans ce monde occulte et qui a voulu continuer aussi ça dans l'Église. Il s'agit d'un certain Simon, le magicien. Donc la Bible nous dit qu'il était dans le monde occulte et quand il est devenu chrétien, il a voulu transformer les choses de Dieu en occulte, comme il vivait dans le monde occulte. Nous allons lire ce passage dans Actes des Apôtres au chapitre 8. Actes des Apôtres au chapitre 8. Nous commençons par le plus important et nous finirons par le plus simple. Le plus simple, c'est toutes sortes de disciplines qu'en tant que chrétien, on peut quand même faire par ignorance et qui peut nous avoir des conséquences dangereuses sur nous. Commençons par le plus important, le plus dangereux. Actes des Apôtres au chapitre 8. Verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Amen. Alors Simon était un grand magicien. Il faisait des miracles avec sa magie. Donc, il était un sorcier en quelque sorte. Il trafiquait avec le monde des esprits. Mais quand il a vu Philippe aussi faire des miracles, plus grands que ces miracles à lui, il s'est dit, tiens, Philippe a une puissance supérieure. Je vais aussi moi me convertir. Et il décide de devenir aussi chrétien. Il devient chrétien, il se fait même baptiser. Donc, il devient officiellement chrétien. Cependant, qu'est-ce qu'on voit? À un certain moment, Pierre et Jean viennent, ils prient pour les gens commencent à parler en langue, en tout cas manifestent les dons du Saint-Esprit. Philippe dit, tiens, quel pouvoir extraordinaire, juste en imposant les mains, moi aussi je veux l'avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il emploie les mêmes méthodes de la sorcellerie. Donc, il faut payer, il faut faire certaines choses pour avoir les dons de Dieu, les dons. Or, dans le monde de Dieu, tout est grâce. On reçoit les choses gratuitement. Et donc, lui, il veut payer pour avoir cette puissance. Mais vous savez, moi, j'ai toujours été choqué par la réponse de Pierre, mais après avoir fait cette étude, maintenant que je fais cette étude sur la sorcellerie, je me dis que la réponse de Pierre n'était pas si choquante. Donc, Pierre comprenait des choses profondes que moi, je ne comprenais pas à l'époque. Vous savez, Pierre dit au verset 22, « Repends-toi de ta méchanceté !» Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a de méchant à se tromper, quoi? À se tromper, à penser qu'on peut toujours acheter les choses de Dieu, surtout que c'était un nouveau converti. Non, non, Pierre a vu loin. Pierre a vu qu'il voulait faire entrer dans l'Église le même système qu'il y a dans le monde de la magie, de la sorcellerie. Il a dit, c'est très dangereux. Pierre savait la dangerosité de cet acte-là. Nous, on voit seulement en surface, on se dit, mais bon, c'est un jeune converti. Non, non, c'est quelqu'un qui n'a jamais réellement été converti. Donc, il est venu parce qu'il a rencontré une puissance plus grande. Donc, il voulait en quelque sorte une magie plus forte. Donc, en Jésus, il trouvait une magie plus forte. C'est pourquoi il a voulu encore acheter cette magie. Pierre dit, monsieur, tu es dans l'iniquité. Tu es dans le fiel amer. Mais autrefois, quand je lisais ça, je disais, mais Pierre a été quand même sévère. Mais non, c'est des gens qui voyaient très loin, qui voyaient la main du diable derrière ce genre d'acte. Bien-aimés, c'est notre premier point. Le piège le plus important qui peut amener à la sorcellerie, à la magie, le piège le plus important, c'est la recherche d'une puissance personnelle. Je vais m'expliquer sur le terme personnel. Dieu, la manière dont il nous sert, c'est comme lorsqu'on vient puiser de l'eau, prendre de l'eau dans un robinet. C'est-à-dire, l'eau que tu sors du robinet, tu la maîtrises pas. Tu ne sais même pas d'où elle vient. Mais tu sais que par le robinet, l'eau sort. Mais le jour où la société Veolia ou bien Lyonnaise des Eaux décide de fermer le robinet, toi, tu n'auras plus d'eau. Donc, tu ne maîtrises pas. Tu dépends complètement de la société Veolia. Tu dépends complètement de la société Lyonnaise des Eaux. Tu dépends d'eux. Mais l'homme ne veut pas ça. L'homme veut avoir plusieurs bidons, plusieurs tonneaux d'eau visibles qui puissent lui-même gérer comme il veut. Il veut une puissance personnelle. Comme quand on a beaucoup d'argent dans la poche, c'est quelque chose qu'on contrôle, on compte. On sait ce qu'il y a. On tient ça dans la main. Ce n'est pas comme lorsque nous allons retirer l'argent à la banque, tu ne sais pas ce qu'il y a. Et souvent, parfois, on tape au guichet pour savoir le solde, c'est combien, avant de se risquer à faire des retraits immenses. Parce qu'on dépend de ce que l'écran va nous afficher. Mais là, quand tu les as, tu as ton argent autour de toi, quand tu as tes bidons d'eau, tu sais que j'en ai pour 5 jours, donc là je vais dépenser de telle manière, je vais faire ceci. Ben, c'est ce que veut l'homme. Il veut avoir une puissance qu'il puisse gérer. D'ailleurs, quand on voit dans le monde comment c'était, les gens qui avaient des fétiches pour être forts, comment ils les avaient? Ils avaient souvent quelque chose au cou, autour du cou, où on leur avait fait des scarifications, on avait mis des produits à l'intérieur. Ça fait que... Donc, et les gens qui sont... qui allaient voir des magiciens en Europe ou ailleurs, on leur donnait des grimoires, des livres dans lesquels il y avait des formules à faire pour recevoir la puissance. En quelque sorte, ils possédaient cette puissance. Ils avaient ça dans leurs mains. Et c'est ça la plus grande porte de la magie, de la sorcellerie. Et je vous ai dit que tout est toujours dans le départ. Adam, est-ce qu'il n'était pas comme Dieu? Il était comme Dieu, puisque la Bible dit quoi? Il a été créé à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que Satan lui dit? Si tu manges de ce fruit, tu deviendras comme Dieu. Mais il était déjà comme Dieu. Et on lui a fait... En réalité, le problème, ce n'était pas la ressemblance à Dieu qui était la question là. La question, c'était que tu pourras contrôler ta ressemblance à Dieu. Aujourd'hui, tu ressembles à Dieu, mais c'est lui qui gère cette ressemblance. Ce n'est pas toi. Mais si tu manges du fruit, eh bien, Dieu ne gérera plus. C'est toi qui vas gérer. Tu géreras les puissances que Dieu te donne par toi-même. C'est ça la plus grande porte d'entrée qui fait que beaucoup de chrétiens entrent dans l'occulte sans s'en rendre compte. Jusqu'un jour, ils vont s'en rendre compte et ça devient déjà trop tard. Leur cœur est déjà endurci et mauvais. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Parce qu'on veut avoir une puissance qu'on regarde, qu'on maîtrise, qu'on contrôle. On veut de ça, cette puissance personnelle. Ce n'est plus la puissance de Dieu, mais c'est la puissance que Dieu t'a donnée et ça devient à toi. Or, c'est ça qui a fait tomber Salomon. On lui a donné la sagesse. Qu'est-ce qu'il devait faire comme prière? Seigneur, gère cette sagesse toi-même. Lui, il a pris la sagesse de Dieu. Il l'a gérée tout seul. On a vu comment il a fini. Quand Dieu donne un don, il faut qu'on prie que lui-même gère ce don-là. Il faut qu'on garde la dépendance à Dieu. Mais nous, ça nous gêne la dépendance à Dieu. On veut nous-mêmes gérer les dons que Dieu donne. Quand Dieu donne une voiture, eh bien, il faut garder la dépendance à Dieu que Dieu gère cette voiture. Quand Dieu donne un enfant, que Dieu gère l'enfant. Mais lorsqu'on s'accapare ce que Dieu donne, c'est comme la manne, ça va pourrir. Ces gens-là disaient, mais attends, vous vous imaginez, il y a des commandements de Dieu, mais c'est bizarre. Il vous dit, ne ramassez la manne que pour un jour. Et toi, tu es là, on te dit, mais ne prends les gâteaux que pour un jour. Tu dis, mais là, j'en ai pris pour un jour 5, mais il en reste 100 là. Je vais les laisser. Mais attends, je vais les stocker. Dieu dit, non, prends que pour un jour. Si tu stockes, ça va pourrir. Pourtant, c'est une matière qui ne devait pas pourrir. Ils avaient l'habitude de ce genre de matière-là. Ça ne pourrissait pas. Mais c'était Dieu qui nous enseignait qu'on n'a pas à gérer sa puissance. On doit la recevoir comme venant d'un robinet. Chaque jour, à chaque moment, on en a besoin, on la réclame. On sait qu'elle est là, mais on aura toujours besoin de la demander. On sait qu'elle est là, mais elle viendra toujours de Dieu. Elle ne sera jamais gérée par nous. Même si elle nous a été allouée. Mais on sait qu'elle doit être gérée par Dieu. C'est ça la grande erreur qui a à chaque fois fait entraîner le chrétien. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, ils sont entrés dans la sorcellerie, dans l'occulte, par ce péché-là d'avoir une puissance personnelle. C'est ce qui a fait entrer Salomon dans l'occulte. Parce que Salomon a fini dans l'occulte. Nous connaissons l'histoire. Il a commencé à adorer les dieux païens. Il a commencé à faire les mêmes choses que ses femmes. Il est entré dans cela à cause de ce péché de puissance personnelle. Du moment qu'on a une puissance qu'on a reçue de Dieu, demandons à Dieu de gérer ça. Du moment qu'on a un don reçu de Dieu, laissons Dieu gérer ça. Dès qu'on veut garder ça, effectivement, on est dans le péché d'Adam. Avoir une puissance personnelle. Il y a Saül, hein, on lui dit, attends 7 jours, Samuel va arriver, dans 1 Samuel 13, Samuel va arriver pour faire le sacrifice et tu peux aller en guerre. Toi, tu es le roi. Tu es qui? Le général d'armée, le général. Tu es là pour te battre, pour mener le peuple au combat. Moi, je suis qui? Je suis le sacrificateur. Je suis là pour élever des offrandes auprès de Dieu, afin que toi, le général, tu puisses gagner dans tes combats. Donc, attends-moi. Mais Saül, même jour arrivé, il lui restait que quelques heures à attendre. Hein. Il dit, non, là, les soldats sont en train de rentrer chez eux. Je vais faire quoi? Je vais devenir moi-même sacrificateur. Il n'était pas content de dépendre du sacrificateur, donc de Dieu en quelque sorte, parce que le sacrificateur était établi par Dieu. Il n'était pas content de dépendre de Dieu pour aller en guerre. Il dit, moi-même je vais sacrifier et puis je vais en guerre. Vous savez, curieusement, il a fait. Il prend L'autorité du sacrificateur, il fait cela. C'est le péché de beaucoup de chrétiens. Ils ne veulent pas accepter l'autorité de Dieu telle qu'elle est répartie à chacun de nous. Ils veulent prendre l'autorité de l'ancien, l'autorité du pasteur, l'autorité du chantre. Ils veulent prendre toutes les autorités. Non, on est un corps. Chacun a une autorité pour qu'on fasse ensemble la même direction. Lorsque on commence à prendre l'autorité de l'autre, c'est que on ne veut pas de l'autorité de Dieu. On veut gérer sa vie soi-même. Il y a un problème. C'est comme ça que petit à petit, on tombe dans l'occulte et dans la sorcellerie. Bien-aimé, j'ai beaucoup de commentaires à faire sur la puissance personnelle. C'est vraiment le plus grand problème. Le plus grand problème. Simon ne voulait pas que ça vienne de Dieu comme ça. Il voulait avoir tout de suite. C'est pourquoi il a payé l'argent. Il a voulu payer de l'argent. Il a dit, je veux cette puissance. Est-ce que je peux la monnayer avec de l'argent? Ils ont dit, non, tu es dans un fil à la mer. Tu es perdu. Les choses de Dieu, ça vient tout seul. Il y a un frère, un ami qui m'a appelé. Il est dans un autre pays. Il me dit, pasteur, quand j'ai fait le voyage en Afrique, je suis revenu avec une maladie dans les jambes. Ben, il n'a pas eu la maladie à partir de là-bas, mais quand il est retourné, il habite un pays, mais il est parti dans un autre. Et au retour dans son pays d'établissement, eh ben, une maladie se manifeste dans l'une de ses jambes. Et puis, on prie, les médecins ne voient rien. Et puis la maladie commence à se stabiliser, puis à reculer sans finir totalement. Et là, récemment, ça a commencé dans la deuxième jambe. Un frère est venu le voir, il lui a dit, ben sûrement quand tu étais parti en Afrique, on a dû t'ensorceller par rapport à tes jambes, et s'ils ont réussi leur coup, c'est que tu n'as rien, tu n'as pas de puissance. Alors le frère était triste, KO, il m'appelle, moi j'ai dit, c'est ça le piège de la sorcellerie. Mais depuis quand un chrétien a de la puissance personnelle? Donc on veut nous amener à dire, je suis puissant. Je suis fort. Or, la Bible dit déjà qu'on est fort. Parce que la Bible dit dans Psaume 68, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Mais c'est un ordre de Dieu. Ce n'est pas notre ordre à nous. C'est un ordre de Dieu. C'est Dieu qui dit que tu es puissant. Donc tu ne peux pas dire « Je ». Non, mon Dieu le dit. Je suis soutenu par sa parole qui dit que je le suis. Et les gens, ils veulent quoi? Ils veulent nous pousser nous-mêmes à être puissants par nous-mêmes. Il vient te voir, pasteur, bon, j'ai tel problème. Dieu ne te dit rien par rapport à ça. Et si tu dis rien, bon, pasteur, tu n'as pas la puissance. Ben, moi, je dis toujours, oui, je n'ai pas la puissance. Puisque je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un canal. Et c'est ainsi que beaucoup de pasteurs ont commencé à faire des concentrations pour pouvoir répondre. Faire des concentrations et petit à petit, ils entrent dans quoi? Ils entrent dans la sorcellerie, ils entrent dans la magie. Et puis, un démon va commencer aussi à te donner des fausses révélations, petit à petit, qui vont marcher un tout petit peu. Et puis, finalement, ils te possèdent complètement. C'est comme ça qu'on entre dans l'occultisme, dans la sorcellerie, lorsqu'on a soif d'avoir une puissance qu'on maîtrise, une puissance qu'on contrôle. J'ai dit aux frères, quand on lit la Bible, Job a été livré aux forces des ténèbres. Et dans Job 19, 25, c'est écrit, « Je sais que mon Rédempteur a le dernier mot. Il s'élèvera le dernier. » Dieu peut nous livrer pendant un temps aux forces des ténèbres. Jésus-Christ a été livré pendant un temps. Lui-même a dit de sa bouche, « C'est l'heure des ténèbres. Faites ce que vous avez à faire. C'est votre heure. On me laisse entre vos mains. » Il a dit à Pilate, « C'est Dieu qui te donne cette autorité pour me faire souffrir, pour me tuer. » C'est Dieu. C'est votre heure que Dieu permet. Et dans nos vies, il y a des temps où Dieu permettra que les gens qui sont contre nous et qui sont dans la magie, dans la sorcellerie ou dans quoi que ce soit, puissent avoir comme une sorte de victoire sur nous. C'est leur heure. Parfois, il ne faut pas trop résister. Il y a des moments où il faut discerner, est-ce qu'il faut que je combatte ou bien que je laisse l'heure des forces des ténèbres se faire toute seule comme Jésus-Christ avait fait. Jésus-Christ ne s'est pas battu humainement. Il s'est dit, mais c'est votre heure. Faites, discernons. Et les gens viendront nous dire, mais si ça t'arrive, tu n'es pas puissant, tu as péché, tu as un problème. Non, c'est l'heure des ténèbres. Je sais que mon Rédempteur a le dernier mot. Tout ce que moi je peux faire, c'est consulter Dieu pour lui poser la question. Seigneur, si tu me reproches quelque chose, dis-le-moi. Et quand il va te le dire, tu te repens. Dès que tu mets ta vie en ordre avec Dieu et que la souffrance ou le problème continue, tu dis, l'heure des ténèbres, allez-y. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Les gens vont se moquer. Ils vont dire, mais toi, le chrétien, voilà ce qui t'arrive. Toi, le pasteur, c'est l'heure des ténèbres. Je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Jésus l'a dit aussi. C'est l'heure. Tu es ce temple. Détruisez ce temple. Je le reconstruirai en 3 jours. C'est votre heure de détruire. Mais il y a aussi l'heure de la résurrection et de la reconstruction. Bien-aimés, même si on nous fait des chantages, comme quoi on n'est pas puissant, comme quoi on n'a pas l'onction, ce n'est pas grave. De toute façon, tout vient de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit distribue lui-même les dons dans chacun d'entre nous. Et il exerce comme il veut. On ne peut pas obliger Dieu à dire que non, il faut à tout prix que je parle en langue, il faut à tout prix que je prophétise. Non, on peut dire à Dieu, Seigneur, je veux être comme toi, je veux que la parole s'accomplisse dans ma vie. Nous voulons voir des miracles, nous voulons voir tout cela, et nous comptons sur toi. Et pendant que nous comptons sur lui, nous nous attendons à lui. Nous ne pouvons pas le forcer, ça veut dire qu'on veut contrôler sa façon d'agir, on ne peut pas. Laissons-le faire. Et Simon a voulu contrôler la façon de Dieu d'agir. Il a voulu que ça devienne sa logique à lui. Et c'est comme ça qu'on a créé beaucoup de sectes. Parce qu'on a pris une façon d'agir de Dieu, on a fait de cette façon une règle. Alors que Dieu n'en fait pas une règle. Dieu a agi de cette manière à un moment. Nous, on fait une doctrine, on en fait une règle et ça crée une secte. Non, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il agit par son esprit comme il veut. Lisez 1 Corinthiens 12, vous allez voir ce verset-là. C'est écrit au verset 11, clairement. C'est le Saint-Esprit qui distribue ce don comme il le veut. C'est clairement écrit, comme lui le veut. Ce n'est pas comme nous le voulons. Même si on a été habitué à une certaine façon de faire, c'est Dieu continuera comme il veut. On ne peut pas créer des règles. Et comme pour maîtriser la façon d'agir de Dieu, ça nous conduit forcément à l'occulte, à la sorcellerie. C'est très dangereux. Un deuxième point, une porte qui peut nous amener à la sorcellerie sans qu'on s'en rende compte, c'est la recherche du surnaturel, de l'extraordinaire. C'est très dangereux, la recherche du surnaturel et de l'extraordinaire. Nous devons chercher à avoir foi en la parole de Dieu. Nous ne devons pas chercher le surnaturel et l'extraordinaire. Dieu a un objectif, c'est sauver tout le monde. Pour atteindre cet objectif, il n'utilise pas les mêmes moyens pour tout le monde. Nous avons vu des films sur des musulmans qui ont été touchés par Jésus-Christ à partir des rêves. Jésus leur est apparu par des rêves. Mais Jésus n'a pas sauvé tous les musulmans par des rêves. Beaucoup plus ont été sauvés juste par la lecture de sa parole. La règle, c'est sa parole. Les exceptions sont les rêves, sont les manifestations surnaturelles. C'est les exceptions. La règle, c'est la parole. La Bible est claire dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Donc maintenant, Dieu peut utiliser des moyens différents pour nous amener cette parole-là. Mais on ne doit pas en faire des règles. Donc la soif de l'extraordinaire, du surnaturel, a conduit beaucoup de gens à la sorcellerie sans qu'ils s'en rendent compte. Parce que cette soif-là va les amener à invoquer les esprits de mensonges sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, à force d'avoir soif de quelque chose que Dieu ne veut pas pour toi, pour le moment, Dieu veut pour nous l'extraordinaire. Dieu est extraordinaire de toute façon, il est surnaturel. Donc nous le sommes déjà. Nous n'avons pas besoin de réclamer cela à corps et à cri. Nous le sommes déjà. L'apôtre Paul dit ceci, je suis pauvre mais j'ai tout. Donc même si la Bible dit que nous ne manquerons de rien, ce n'est pas une raison pour qu'on soit riche à tout prix. Tout le monde ne sera pas riche, mais tout le monde ne manquera de rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul, même s'il n'était pas riche, il disait, mais c'est mon père qui possède tout. Donc je le suis. Même si dans mes mains il n'y a rien, en réalité je suis riche parce que c'est mon père qui possède tout. Donc c'est la même chose avec le surnaturel. Même si nous ne vivons pas le surnaturel, mais puisque notre père est surnaturel, donc nous y sommes. Nous sommes dans le surnaturel. Et Dieu le manifestera quand il le veut, au bon moment. Ce n'est pas à nous de décider quand il le manifestera. Nous, on doit réclamer que sa volonté s'accomplisse. Dans la prière que Jésus nous a laissée, il n'y a aucune prière pour demander le surnaturel. C'est la prière pour demander que la volonté de Père s'accomplisse. Et tous les gens qui ont soif du surnaturel finissent entre les mains des magiciens, des pasteurs sorciers, des pasteurs satanistes. Parce qu'ils vont leur offrir cet extraordinaire-là. C'est très, très dangereux. Et on attire ainsi des démons de mensonges qui vont nous donner l'extraordinaire par des visions fausses, par des fausses prophéties, parce que nous avons soif de cela. Vous savez, il y a une personne qui avait écouté une de nos prédications sur la convoitise. C'est quelqu'un qui attendait un enfant, mais ça ne venait pas. Donc elle était en quelque sorte stérile. Et j'ai vu cette personne en Belgique. Elle m'a expliqué, elle m'a dit que cette prédication m'a libéré. Parce que quand j'étais dans mon pays d'origine, j'avais tellement soif d'un enfant que chaque année, il y avait des serviteurs de Dieu qui visitaient notre église qui me prophétisaient que cette année, j'allais avoir un enfant. Mais l'année passée, je n'avais pas toujours d'enfant. Alors, son problème, c'était que la faute, c'était à qui? À Dieu. Parce qu'elle se disait, mais tiens, ces serviteurs-là ne sont même pas au courant que je cherche un enfant. Mais ils me prophétisent ça. Alors, elle cherchait l'explication à cela. Son explication, c'est que Dieu n'accomplit pas ses promesses, puisque ces gens-là sont censés. Parce que, bon, parfois, il y a aussi des coopérations entre les pasteurs, ils s'églissent les infos. Mais supposons qu'elle suppose qu'il n'y avait pas cette coopération-là. Donc, elle suppose que ces gens-là parlaient d'eux-mêmes. Alors, quand elle a écouté la prédication, elle a compris que quand on a une forte convoitise, on attire des esprits de mensonges qui peuvent parler à des serviteurs qui ne sont pas vigilants. Ils vont croire que c'est Dieu qui parle, mais c'est un esprit qui leur parle. Et ils vont prophétiser des fausses choses parce que leur vie à eux-mêmes n'est pas claire. Vous savez, quand on n'a pas une vie de sainteté, eh bien, de mauvais esprits peuvent utiliser certains pasteurs. Quand tu es un pasteur qui aime beaucoup l'argent, qui aime beaucoup le succès, eh bien, de mauvais esprits peuvent t'utiliser. Et c'est ce qui fait que cette sœur, à chaque fois, on lui prophétisait qu'elle aurait un enfant, elle ne l'avait toujours pas. Et donc, pour elle, c'était Dieu le problème. Et donc, quand elle a écouté les prédications, elle a compris que c'était sa propre convoitise. Sa soif de l'enfant était devenue anormale. Et quand on sort de la volonté de Dieu, on tombe dans la volonté du diable. Et quand on est dans la volonté du diable, il peut maintenant nous manipuler comme il veut. Donc sa soif était anormale et ça attirait même les fausses prophéties. C'est ça la réalité, ça attirait les démons de mensonges. Donc il faut faire attention à la soif du surnaturel et bref à la convoitise en général. Quelle que soit la convoitise de l'argent, la convoitise du succès, la convoitise de la reconnaissance, la convoitise, quand tu veux à tout prix. Voilà, les ambitions personnelles. Quand tu deviens trop, tu convoites toi tes propres ambitions. Tu commences à rêver comme Sarkozy disait quand il se rase, il rêve d'être président. Non, donc c'est quand tu tombes dans cette convoitise-là, forcément, tu vas attirer des mauvais esprits qui vont collaborer avec toi sans que tu t'en rendes compte. Tu croiras même que c'est Dieu, jusqu'à tu sais qu'un jour Dieu te montre que ce n'est pas lui. Maintenant, il faut avoir le courage de faire marche arrière. C'est que beaucoup n'ont pas. Donc c'est cela. Donc on attire. Donc quand on a une forte convoitise, surtout du surnaturel, on attire ces mauvais esprits et ils vont nous plonger dans le surnaturel négatif. Un autre piège subtil, c'est les rêves non refutés. Les rêves, les visions non refutées. Puisque le diable sait qu'on a soif, on aime le surnaturel. Il sait qu'on a aussi des envies, puisqu'il nous a vus parfois, il nous a tentés à certains moments. Il connaît à peu près les envies de chacun, il connaît à peu près le besoin de l'homme. C'est le surnaturel, il a des rêves de ce genre-là. Eh bien, il peut se faire que dans tes nuits, tu as des rêves, soit des rapports physiques avec une autre personne que tu n'as pas la possibilité d'aborder normalement. Et soit des rêves où tu te retrouves dans un endroit où tu es riche, où tu voles comme un oiseau, des rêves où tu te... Bon, en tout cas, des rêves que le matin, ça te fait un certain bien. Ah, j'ai fait du succès dans ce monde là-bas. J'ai vu telle chose. Et lui, ces rêves-là, non refutés, c'est déjà un apprentissage inconscient au monde de la sorcellerie. Donc, il t'apprend à goûter déjà à ce monde-là. Il faut faire très attention. Il y a des rêves beaucoup plus dangereux. Quand on se lève, on dit « Ah, j'ai fait un cauchemar, je refuse. » Mais il y a des rêves positifs pour l'homme, mais négatifs pour sa santé spirituelle. Eh bien, ces rêves-là existent. Et quand tu te lèves, tu dis « Ah, si ça pouvait être comme ça dans le monde réel. » Quand tu fais de telles choses, eh bien, en quelque sorte, tu acceptes ce qui vient de se passer. Et petit à petit, tu es piégé. Il y a des visions, par exemple, tu peux être là, on te montre des choses, on te montre des anges, on te montre des démons. Et au lieu de chercher le discernement de Dieu, tu sortes de joie. « Ah, enfin, j'ai mon don. » Eh bien, le diable dit « Voilà, il est tombé dans le piège. Il a accepté mon don. Et donc, je peux maintenant commencer à l'exercer petit à petit à la sorcellerie, à la magie. » Il y a parfois... Des choses qui montent dans ton cœur pour prophétiser. Au lieu de faire un petit discernement, tu ne fais même pas de discernement. Directement, paf, tu sors parce que tu es pressé de dépater. Eh bien, Satan dit, bon, ça y est. Il aime tellement ça qu'il ne fait même plus de discernement. Je lui envoie cela. C'est bien aimé, il faut faire très, très attention. Et les rêves, les visions, certaines manifestations surnaturelles qui peuvent arriver autour de toi ou en toi, eh bien, sont des appâts que le diable te sert pour pouvoir t'attirer dans le monde du surnaturel et devenir maintenant après esclave et te faire du mal. Donc c'est très 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 dangereux. Donc quand on a ce genre de rêve, on sait bien que c'est mauvais. Tu te retrouves quelque part où tu vois qu'il y a, tu es comme un chef, mais il y a des gens qui boivent du sang ou bien qui font des réunions bizarres. Quand tu te lèves le matin, tu dois refuser ça. Tu as des rapports physiques avec quelqu'un, même si la personne dans le rêve est extraordinaire. Quand tu te réveilles, tu dois dire « Je refuse ça, je refuse ça. » Et quand tu ne refuses pas, donc tu as accepté le lien avec cette personne-là. Alors en réalité, ce n'est pas une personne, c'est un démon. Et petit à petit, tu es un peu paralysé et on t'amène petit à petit dans le monde spirituel. Nous allons laisser la cassette être changée. Seigneur, merci de nous accompagner jusqu'au bout et de préparer, Seigneur, les réponses aux questions et que tout soit fait pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, faisons attention à toute forme de rêve ou de vision qu'on peut avoir. Discernons et soyons prêts à dire que ça vient de l'ennemi. Moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui, quand ils viennent te raconter un rêve ou un songe, il veut qu'en tant que pasteur, tu acceptes seulement que ça vient de Dieu. Moi, je dis, mais moi-même, qui suis pasteur, il y a des rêves que j'ai faits, je sais que ça vient du diable. Alors, donc toi, tu ne veux pas que... Tu enlèves la possibilité que ça puisse venir du diable. Non, on peut faire des rêves qui viennent du diable, qui viennent de Dieu, qui viennent de la chair. Nous, la Bible nous dit que éprouver tout esprit. Donc, mais qui qu'on soit, on doit éprouver, même si... Un esprit vient sous la forme d'un ange, on doit éprouver. Est-ce que c'était Dieu, de Dieu ou pas? Si on refuse d'éprouver, on prend pour dire tout ce que le diable, tout ce qui vient dans les rêves, le diable le saura. Et quand il le saura, il nous enverra des rêves pour diviser. Il nous enverra des rêves pour nous créer des problèmes avec les autres. Il nous enverra des rêves pour nous éloigner des autres. Donc il faut faire très très attention. Donc il faut éprouver tout esprit et ne pas sauter sur l'extraordinaire. Et accepter tous les rêves. Voilà, et puis, un autre point, c'est la foi en un homme. Ça peut aussi nous entraîner à devenir sorcier ou entrer dans l'occultisme. Quand on considère que cet homme-là, la puissance qu'il dégage vient de lui, et qu'on va vers lui pour recevoir cette puissance-là, eh bien, il peut, s'il est sorcier, il peut nous donner la sorcellerie. Mais s'il n'est pas sorcier, notre façon de faire peut se transformer pour nous comme en une sorte d'occultisme. Donc, tout homme qui est utilisé par Dieu, nous devons vraiment faire le discernement suivant ce qui est en lui vient de Dieu. Ça ne vient pas de lui. Donc quand je vais vers lui, je vais sous l'ordre de Dieu. Dieu veut l'utiliser pour moi. Il ne faut pas considérer que c'est sa puissance qu'il me transmet. Parce qu'on entend aujourd'hui, à gauche, à droite, les pasteurs dire, c'est mon onction. C'est l'onction. Moi-même, j'étais dans une église où le pasteur disait, l'onction que vous avez dans vos vies, c'est l'onction que Dieu m'a donnée, qui c'est qui a été mis sur vous. Et un jour, il m'a appelé au téléphone pour me dire, quelqu'un a rêvé que toi tu disais, maintenant que tu as ton onction, tu vas te débrouiller par toi-même. Moi je lui dis, mais moi je ne pensais pas avoir ton onction. Il me dit, quoi? Mais non, c'est biblique, l'onction que tu as dans ta vie. Moi je dis, non. Moi ces histoires-là d'onction, je ne connais pas, je connais que Jésus. Donc, déjà je ne pensais pas avoir ton onction, je ne vois pas pourquoi dans un rêve, quelqu'un va me voir en train de dire, j'ai maintenant mon onction. Non, moi je n'ai pas d'onction. Moi, ce que j'ai, c'est Jésus qui agit à travers moi. Je n'ai rien pour moi, à moi-même. Et le monsieur était décomposé. Sa théorie avait échoué. Bien-aimé. Donc, et on entend ça à gauche, à droite. Faites attention, c'est mon onction. Si quelqu'un me désobéit, il perd mon onction. Et toi aussi, si tu acceptes que c'est son onction, donc, tu vas te laisser envoûter. C'est très, très dangereux. Nous devons considérer que c'est Dieu qui utilise les humains. Alors les gens vont me dire, mais Élisée et Élie. Élisée avait demandé à Élie de lui donner l'onction. Mais non, bien-aimé, Élie avait reçu de Dieu de donner à Élisée. Ça ne vient pas d'Élie. D'ailleurs, la preuve, quand Élisée a demandé à Élie, Élie a dit à Élisée, moi je ne peux rien. Si tu me vois partir, c'est que Dieu veut te donner. Moi, je ne peux rien. Tu me demandes la double portion. Moi, je ne peux pas te la donner. Mais si tu me vois, ça veut dire que c'est que Dieu t'agrée. Je te donne un signe pour comprendre que Dieu t'agrée. Donc, moi, je ne donne pas de puissance. Aucun homme ne peut vous donner la puissance. Qu'est-ce qu'il a? Il ne peut vous donner que ce que Dieu a prévu de donner par lui. Je ne veux pas dire qu'il faut désobéir aux gens. Mais la Bible dit dans Luc 7, 30 que les pharisiens, en refusant le baptême de Jean-Baptiste, ils ont arrêté le plan de Dieu sur leur vie. C'est vrai que Dieu a établi des autorités pour nous bénir, pour nous conduire. Et que si on refuse certaines autorités, on arrête aussi le plan de Dieu à un certain moment pour notre vie. Mais ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas de ces personnes, ça vient de Dieu. C'est le plan de Dieu qu'on refuse. Ce n'est pas parce que cette personne-là bloquerait son robinet. Lui, il n'a rien du tout. Tout ce qu'il a, c'est Dieu qui agit à lui. Donc quand on commence à avoir foi à un homme en considérant que la puissance qu'il a vient de lui, on tombe déjà dans la magie, dans l'occultisme. Et si c'est un faux pasteur, eh bien il te donnera cette sorcellerie, cette magie. Si c'est un vrai pasteur, eh bien c'est un démon qui un jour t'attirera vers un faux parce qu'il a compris ton système d'agir pour que tu reçoives la sorcellerie, la magie. Donc il faut faire très très attention. Tout homme qui a des talents, des dons, il faut savoir que ça vient de Dieu. Ce n'est qu'un instrument. Ce n'est qu'un instrument. Aucun homme n'est puissant. C'est Dieu qui est puissant et qui, par sa présence en nous, nous rend puissants. Et s'il nous quitte, on n'a plus rien. Donc c'est Dieu qu'il faut suivre, ce n'est pas l'homme. Maintenant, Dieu a établi des hommes pour qu'on les suive à travers ces hommes-là. Il faut respecter, on respecte ce schéma-là, mais ce n'est pas l'homme qu'on craint. On respecte le schéma de Dieu. C'est très important. Donc, nous continuons. Un autre point, c'est les activités spirituelles considérées en elles-mêmes comme des puissances et non des ponts vers Dieu. Ça veut dire quoi? On a entendu des discours du genre, tu fais tel jeûne, tu veux faire tel boulot, tu fais tel jeûne et prière, tel moment de jeûne et prière. Ou tu dois te lever chaque matin, faire la prière à 3 heures du matin parce que tu es trop attaqué. Tu dois te lever à 1 heure du matin, faire la prière parce que tu es trop attaqué. Bien aimé, donc la prière en soi devient ta protection, ce n'est plus Dieu. Non, que ce soit la prière, la lecture de la parole, l'adoration, la louange, tout ce qu'on fait, ce sont des ponts vers Dieu. C'est Dieu qui agit. Donc il ne faut jamais considérer que ce qu'on fait, En soi, c'est une puissance. C'est pourquoi je connais dans un pays, tu parles à quelqu'un, il se dit évangéliste, un vrai escroc, mais puisqu'il va jeûner régulièrement, il va prier régulièrement. Donc, il croit avoir une puissance. Donc, la prière est devenue un fétiche, une magie, une sorte d'incantation. Les activités pour Dieu sont devenues une sorte de magie. Non, les activités que nous faisons ne sont que des ponts. Mais l'acteur, celui qui agit, c'est Dieu. Il est souverain. Tu peux jeûner 4 jours, il ne te donne pas ce que tu as demandé. Parce que ton jeûne, tes prières ne sont qu'un canal, ne sont qu'un pont. C'est lui qui agit. Mais quand tu commences à considérer tes jeûnes et prières comme une puissance en eux-mêmes, tu entres dans la magie, puisque les magiciens aussi font pareil. Ils font aussi des incantations, ils prient et ils considèrent leurs incantations comme des puissances en elles-mêmes. Non. Nous, tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être dans sa volonté. Il veut qu'on soit dans sa volonté. Si sa volonté, c'est qu'on prie, on jeûne, on prie, on jeûne. Si sa volonté, c'est qu'on vienne le louer tous les jours, de 8h à 18h, on vient louer de 8h à 18h. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de mon Père. Maintenant, faire des activités qu'on fait, une puissance en elle-même pour dire, bon, là, on a loué de 8h à 18h. Donc, ça peut nous permettre d'avoir une maison. Donc, on a loué de 8h à minuit. Ça va nous permettre d'avoir un château. On a loué de 8h du matin à 8h du matin qui suit. Ça va nous permettre d'avoir une ville. Non, il n'y a pas une logique mathématique entre ce qu'on fait et les résultats. Nous, c'est l'obéissance qui compte. Si on a obéi à Dieu, on aura de bons résultats. Si on n'a pas obéi à Dieu, même si on fait des prières comme on veut, on est dans la magie, on n'est pas dans la communion. Mais bien sûr, mon peuple périt par manque de connaissances. Nous tous, nous avons baigné longtemps dans ça, croyant que tel système de prière que je vais faire, c'est ça qui va m'ouvrir les portes à telle chose. Non, il faut obéir à Dieu. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais oui, mais Jésus lui-même avait dit à Pierre et aux autres, mais vous n'avez même pas prié 1 heure avec moi. Mais non, j'ai entendu un pasteur dire que donc le minimum c'est 1 heure. Moi je dis, mais quelle déduction! Jésus a voulu leur expliquer que vous n'avez pas discerné que le moment que nous vivions était difficile et que vous devez vous lever pour prier, et prier sérieusement. Donc Jésus a fait plutôt appel à leur discernement. Vous ne voyez pas que le moment que je vis, que nous vivons est difficile? Il n'a pas classifié le temps de prière ou la façon de prier. Mais à travers sa vie, les gens voyaient bien que Jésus priait beaucoup. Il priait toute la nuit. Il priait, il s'écartait régulièrement dans les montagnes. La Bible dit que dans Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre, quand midi est arrivé, il s'est isolé pour prier. On voit que c'était des gens de prière. Ni Paul, ni Pierre, ni Jacques ont classifié, ont fait de la prière une sorte de théologie, d'heure ou de jeûne. Non, mais ils avaient une vie de prière et de jeûne, sans publicité, sans une forme de sectarisation des choses. Ils sont restés simples. Quand tu les observes, tu vois bien qu'ils prient tout le temps. Donc tu les imites. Mais faire de la prière un système en soi qui va produire des choses, c'est nous revenons encore dans la magie, nous revenons encore dans les choses occultes où on veut utiliser l'invisible, on veut saisir l'invisible, on veut cerner l'invisible. C'est très, très dangereux. Et pour finir, je vais parler des choses simples, mais elles sont longues. Toutes sortes de pratiques occultes, les arts martiaux, toutes ces choses que j'appelle parfois des pactes indirects qui peuvent nous amener à ouvrir des portes par rapport au monde spirituel, par rapport à l'occultisme. On affichera la liste sur le panneau derrière, mais je vais lire quelques points importants. Les arts martiaux, c'est une porte d'entrée au monde spirituel. Moi, j'ai fait un peu de karaté et je sais qu'à un certain moment, sans faire des fétiches, le fait de faire certains katas et certains cris, ça attire des démons spéciaux et tu te retrouves rempli d'une puissance que tu n'as pas normalement, en temps normal. Et donc, c'est des portes au monde spirituel. Les tatouages, la divination, le fait de vouloir connaître l'avenir, c'est très, très dangereux. Les objets qui attirent des esprits, grenouilles, scarabées, hiboux, serpents, chats noirs, certains genres de statuettes, donc il faut faire attention. Il y a la prière aux morts, la prière des saints, croire ou s'intéresser aux extraterrestres, l'astrologie, horoscope, signe du zodiaque, sophrologie, les jeux d'argent, don de faire disparaître les verrues, la superstition, la thérapie par les couleurs, thérapie par la musique, végétarisme, homéopathie, numérologie, acupuncture, plein d'autres iridologies, mais bon, il y a des choses qui sont tellement compliquées que je ne les cite pas. Du moment que tu rencontres quelque chose de très compliqué, fais attention. Donc les choses de Dieu sont simples. Écriture automatique, il y en a qui disent que c'est le Saint-Esprit qui me pousse à écrire. Non, 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 c'est un démon. Le Saint-Esprit a déjà poussé Jean, Jacques, tout ça, à nous écrire les épîtres, c'est bon. Tout le reste, c'est des démons. Envoyer les malédictions, il y a des chrétiens qui disent il est maudit, c'est la magie. La Bible dit bénissez, ne maudissez pas. Donc quand quelqu'un chrétien commence à maudire les gens, il est dans la magie. Il n'est pas normal. La Bible est claire. Donc ne maudissez pas, bénissez. C'est ceux qui croient aux fantômes, tout ça, c'est ostéopathie, ce qui va faire rigoler peut-être parti communiste, tout ça c'est le déni de Dieu même. Mais on n'a pas de temps à expliquer tout ça. Pour ceux qui veulent prolonger, on en parlera plus tard. Harry Potter, yoga, les visions, des gens qui aiment les visions et qui ne cherchent pas Dieu. Le don d'arrêter le feu, Pokémon, toutes ces choses-là, ce sont des portes d'entrée. Mais il y a toute une liste que je n'ai pas. Donc, on va l'afficher demain. Donc, voilà, ça sont des choses simples. Quand on voit ça, quand on rencontre des noms bizarres, faisons attention. Les choses que Dieu a faites sont très simples. Dès que tu entres dans le compliqué, dis-toi que tu es sorti de la parole de Dieu. Et je vais finir en disant qu'est-ce que Dieu attend de nous. Deux choses, l'obéissance et la foi. À un certain moment, c'est poser la question, suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que je crois en ce que Dieu a dit dans sa parole? C'est ce que Dieu attend de nous. Il dit, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que Dieu a dit à Samuel dans 1 Samuel 15, 22, 23? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Car la désobéissance est comparable à quoi? À la divination, c'est-à-dire à la sorcellerie. La désobéissance, quand tu commences à désobéir, tu sors de la volonté de Dieu, tu tombes dans la divination. Et la résistance est comparable au théraphime, c'est-à-dire à l'adoration des idoles. C'est la même chose. Donc Dieu attend de nous l'obéissance et la foi. Le juste vivra par la foi. Si on obéit à Dieu et qu'on discerne sa volonté pour nous, on obéit à cela, et qu'on a la foi qu'il va agir, eh bien, gloire à Dieu, et nous allons vivre des miracles, nous allons voir des choses extraordinaires, parce que Dieu est extraordinaire, il est tout-puissant, il est merveilleux, que son nom soit béni pour la simplicité. Vous savez, Dieu nous sert avec simplicité. Quand on est bon, on donne que des choses simples pour que tout le monde puisse les saisir. On ne complique pas les choses. Voilà notre Dieu. Il nous a donné un seul chemin, Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Voilà, nous passons au temps des questions avant la prière.